Bonsoir et bienvenue à la librairie Olivieri pour ce lancement et causerie autour de du livre de Mariella Pandolfi, assise à ma gauche, et Didier Fassin, assis encore plus loin à ma gauche. Ce soir, les deux directeurs de ce numéro, pas de ce numéro, mais ce livre qui porte sur les états d'urgence contemporains, la politique des interventions militaires et humanitaires. On va le faire présenter par les deux directeurs. Ensuite, on aura le plaisir d'écouter la docteure Shora Makarimi, qui a contribué à ce volume. Moi, je prendrai brièvement la parole, mais surtout, ce qui nous intéresse, ce sera d'avoir les premières réactions. Ce livre vient de sortir ces derniers jours. On n'a pas encore eu de recension dans la presse internationale, ça ne tardera pas. Mais ce soir, on va avoir les premières réactions de Serge Marcoux, ancien ambassadeur du Canada en Bosnie-Herzégovine, le premier ambassadeur du Canada dans ce pays-là. Serge Marcoux, qui a une longue carrière dans le service diplomatique du Canada, et donc qui a aussi, dans le contexte des Balkans, après les guerres des Balkans et pendant les guerres du Balkan, à connaître de première main les problèmes des états d'urgence, les Balkans ayant été, entre autres, un terrain de Mariella Pandolfi. Nous aurons aussi les réactions très chaud encore de Gilles Bibeau, professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal. Donc, sans plus tarder, je passe la parole tout de suite à Mariella Pandolfi.
Merci, Laurent. Merci à vous d'être parmi nous. Et je pense que je prendrai vraiment la parole seulement pour quelques minutes. Parce que c'est très intéressant, qu'on peut dire, qu'est-ce que c'est l'historique de ces projets de livres. Disons, l'argument est là. Vous savez bien que l'argument est contemporain. Haïti et les tremblements de terre viennent, qu'on peut dire, ils nous habitaient pendant des mois et dans les derniers mois. Mais disons, pendant les 10 ou 15 années, nous avons eu, qu'on peut dire, une série d'états d'urgence. Et une série d'états d'urgence à lesquels ont répondu des entités, comme on peut dire, les humanitaires, en termes des ONG ou de certains organismes, et aussi les militaires. Donc, aujourd'hui, dans la presse, dans les médias, aussi les gens qui ne sont pas des spécialistes, comprendre que c'est un problème sur lequel les sciences sociales et aussi les chercheurs, mais aussi la société civile et les gens, doivent réfléchir et comprendre les limites, les frontières, les aspects positifs, mais aussi n'avoir pas peur de critiquer, qu'on peut dire, ce qu'est l'importance d'une intervention, d'aider les populations. Mais je pense que ce n'est pas ça l'argument, parce que nous avons écrit beaucoup, nous travaillons beaucoup sur ces sujets, serait plutôt de vous raconter l'historique de ces livres. Comment, disons, des équipes, une équipe à Montréal et l'autre équipe à Paris, donc l'équipe, les séminaires dirigés par Didier Fassin à Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales, et notre groupe de recherche, le groupe de recherche de Lawrence et de moi-même, avec plusieurs de nos étudiants de doctorat, et nous avons commencé à réfléchir chacun, disons, à Paris ou à Montréal, mais petit à petit, nous avons compris que c'était très important et nécessaire d'échanger, de voir, qu'on peut dire, différents prospectifs, mais aussi de partager une série de doutes, et aussi de partager une idée, qu'on peut dire, d'une thématique très forte, politiquement et moralement forte, et qui allait au-delà des disciplines. Donc ça, c'était la première réflexion très importante qui est derrière, qu'on peut dire, tous les pas qui ont créé et qui ont déterminé, disons, tous les processus de ces livres. La deuxième chose que je voudrais vous rappeler, donc on a fait un colloque en 2003, donc, qui était autour de l'intervention, et bien sûr Didier Fassin était parmi nous ici à Montréal, Et après, nous sommes allés plusieurs fois à Paris, dans les séminaires de Didier, et pour essayer de travailler, comme on peut dire, c'est, les pistes d'une thématique qui, à la limite, au début, n'était pas très, comme on peut dire, c'était pas très clair dans le sens qu'on voulait aller au fond de la question. On voulait voir, comme on peut dire, tout ce qui était autour d'intervenir pour aider la souffrance des autres. Et en regardant ce qu'était intervenir pour aider la souffrance des autres, nous avons compris qu'il y avait une série d'acteurs très différents qui étaient impliqués dans la politique de l'intervention. Et entre autres, un des arguments qui était très important à comprendre, c'était qu'est-ce que signifiait la militarisation de l'humanitaire et l'humanitaire militarisé. Donc, tous ces questionnements autour, disons, de cette zone que j'appelais grise dans mes travaux et qui était le rapport entre les militaires et l'humanitaire. Ça ne signifie pas être, qu'on peut dire, contre ou pour, signifier, qu'on peut dire, entrer dans toutes les niches qu'une intervention, disons, construisait. Et essayer de comprendre en termes, pas seulement anthropologiques, parce que nous sommes des anthropologues, mais déjà Lawrence McFall est un politologue, et nous avons invité une série de gens qui n'avaient pas peur de se questionner autour de toutes les étapes de l'intervention. Alors je pense que nous avons, qu'on peut dire, déterminé un travail qui nous semble pas seulement important, parce que je pense que nous avons fait un travail sérieux, mais je dirais important aussi pour un public qui n'est pas spécialiste et qui comprend qu'autour, disons, de la gestion de l'intervention humanitaire et militaire, se situent tous les apories et les paradigmes de notre contemporanéité. Donc, je ne peux pas vous dire aussi les plaisirs que nous avons eu à travailler. Il n'y a pas eu un moment, je dirais, de tension, mais je dirais une collaboration permanente, aussi à choisir les différentes pistes, comment construire les livres, et parce qu'on était, je pense, qu'on peut dire, pas pris seulement pour une entreprise, qui pouvait être une entreprise aussi, comme tous les livres sont une entreprise, mais il y avait derrière, comme dit, tout un questionnement éthique, moral, qui était pas seulement sur l'argument, mais aussi sur les questionnements de notre propre discipline. Alors, je pense que sera à vous après de nous dire si nous sommes réussis à vous transmettre, qu'on veut dire, la force politique de ces questionnements, et morale et politique à la fois. Et je pense que, donc, je voudrais que Didier Pederck dise quelques mots un peu plus précis au sein de ce qu'était, disons, la stratégie vraiment intellectuelle de ces livres.
Je vais juste intervenir rapidement pour rappeler aux auditeurs, parce que ce n'est pas juste vous autres qui écoutez cette discussion. Nous sommes en train de nous faire enregistrer pour Radio Spirale et vous pouvez par la suite revivre cette expérience. Donc, j'aurais dû aussi dire pour les auditeurs futurs de cette émission que vous venez d'entendre Mariana Pandolfi, qui est professeure d'anthropologie à l'Université de Montréal. Et on passe la parole maintenant à Didier Fassin, qui vient de assumer la chaire en anthropologie au Princeton Institute for Advanced Studies à l'Université Princeton, la chaire qui était occupée jusqu'à il y a quatre ans maintenant que Clifford Geertz est mort, qui était occupée par Clifford Geertz, à Didier Fassin, qui est connu comme qui a fait sa formation en médecine pour la suite devenir anthropologue médical, mais aussi anthropologue maintenant de la moralité, si on peut le dire comme ça. Et en plus, Didier Fassin continue à être directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris.
Merci de votre présence. Je vais essayer de compléter ce que disait Mariella et en étant bref, parce que je pense que c'est pour nous à la fois plus intéressant et pour vous certainement aussi d'entendre les commentaires et les critiques de ceux qui sont à cette table, mais peut-être aussi d'avoir les questions et les échanges avec vous. Je dirais simplement que, au fond, le travail que nous faisons de manière générale en sciences sociales, pour ceux d'entre vous qui n'en sont pas, ça consiste bien sûr à réfléchir sur notre monde. Ça n'est pas la seule manière de voir les sciences sociales, mais en tout cas, c'est celle qui nous intéresse. Et avec probablement deux caractéristiques assez simples. La première, qui est d'essayer de conserver une capacité d'étonnement, c'est-à-dire de ne pas regarder le monde tel qu'il est évident, mais peut-être tel qu'on peut encore l'interroger, tel qu'on peut encore se poser des questions dessus. Et deuxièmement, de mener un travail de critique, ce qui veut dire de penser les choses autrement, de penser des possibles différents, ce qui ne veut pas dire de critiquer les acteurs ou les actions qu'ils mènent. Et dans le cadre de ce livre, ce que nous avons plus précisément essayé de faire, et comme l'a rappelé Mariella, c'est un travail vraiment pluriel, pluridisciplinaire. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de comprendre les transformations qui étaient intervenues souvent de manière assez imperceptible et semblant aller de soi, parce que tout le monde pense que les choses sont bien comme ça, ou parfois d'ailleurs pense qu'elles sont mal, mais en tout cas dans ces registres-là. Et c'est donc la transformation des rapports entre la morale et la politique. Et plus particulièrement, parce qu'on y a travaillé l'un et l'autre à différentes échelles, mais là, plus particulièrement, au plan international. Qu'est-ce qui, dans les relations internationales, s'est transformé dans les relations entre morale et politique ? Voilà, c'est ce type de question que nous avons essayé d'aborder en ayant cet étonnement, qui est qu'au fond, on a eu 3 siècles et demi à peu près d'une doctrine dans les relations internationales qui était fondée, au moins depuis le traité de Westphalie, sur la souveraineté des États, et donc un principe de non-intervention dans les affaires domestiques, considérées comme telles. Et que ça, c'est ce qui a présidé à, parmi les grands principes de la Charte des Nations Unies. Or, ce qu'on observe depuis quelques décennies, et pas beaucoup de décennies, c'est plutôt depuis 2, encore qu'on peut remonter un tout petit peu plus loin dans certaines interventions, et je pense en particulier à celle de l'Inde au Bangladesh en 1971. Mais disons, dans les années 90 et 2000, en particulier, on a pu constater, nous le constatons tous, une multiplication des interventions dans des pays sur pratiquement tous les continents, au nom de la protection des populations et du sauvetage des vies. Alors, tout ça nous paraît souvent évident, c'est-à-dire qu'on se dit, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en train de se faire massacrer, il faut intervenir. D'abord, ça n'est pas évident, mais surtout, ça ne l'a pas été jusqu'à récemment, puisque précisément, il y avait une autre doctrine qui prévalait. Alors ça s'est installé progressivement, mais à un rythme de plus en plus soutenu. Le registre de légitimation, pourquoi est-ce qu'on intervient, qui n'a plus besoin de l'habituel outil, ou plus nécessairement besoin de l'habituel outil légal, c'est-à-dire un accord des Nations Unies pour l'intervention, eh bien c'est très souvent un argument humanitaire. Donc qu'est-ce que c'est que cette situation dans laquelle on peut être amené à faire la guerre pour des raisons humanitaires, et je ne joue pas sur les mots puisque c'est la raison qu'invoquait Vaclav Havel par exemple pour intervenir avec l'OTAN au Kosovo. Donc on a là un changement qui est très important. Au nom du droit d'ingérence, certains vont même jusqu'au devoir d'ingérence. Et dans un premier temps, notre posture n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, mais c'est d'essayer de comprendre ce qui est en jeu. Alors simplement, je donne ce deuxième élément. Qu'est-ce que la critique vient faire là-dedans si elle ne consiste pas simplement à juger du bien fondé ou du mal fondé, ce qui relève d'autres instances ou d'autres spécialités? Ce que la critique peut nous faire, sur quoi elle peut nous faire réfléchir, c'est là encore sur des choses qui sont évidentes, par exemple la séparation de l'humanitaire et du militaire. Quand vous parlez avec les grandes organisations humanitaires, Médecins sans frontières, Médecins du Monde et bien d'autres, ils vous décrivent comme le pire des fléaux contemporains, pour eux, le fait que les militaires se servent de l'argument humanitaire, en disant « militaire-humanitaire, c'est pas la même chose, c'est séparé, c'est différent ». Ce que nous essayons de montrer, avec d'autres auteurs, c'est que les choses ne sont pas si simples, et c'est que, d'une part, les militaires de leur côté peuvent très bien avoir le sentiment qu'ils agissent au nom de l'humanitaire, autrement dit, pas simplement une justification purement rhétorique qui servirait à motiver les actions, mais peuvent effectivement installer des tentes, mettre des perfusions, des programmes d'alimentation, s'occuper de réfugiés, etc. Ils font ça aussi, les militaires. Et puis de leur côté, les humanitaires, qui voudraient être tellement séparés des militaires, d'une part, sont bien obligés de tenir compte de la protection des militaires. Il y a des couloirs ou des corridors humanitaires qui sont ouverts, faute de quoi on n'intervient pas. Mais également, dans certains cas, ils peuvent aller jusqu'à des collaborations étroites avec les militaires, jusqu'à leur donner des renseignements, par exemple, sur des populations locales auxquelles ils ont accès. Et de manière, je dirais, plus générale, au-delà de ces situations un peu particulières que je viens d'évoquer, de manière plus générale, au fond, les humanitaires sont dans une temporalité, dans une modalité d'action qui sont très proches de celles des militaires. Ils arrivent en même temps, ils repartent très souvent en même temps, ils ont les mêmes dispositifs d'exception, c'est-à-dire où ils sont en marge de la société, dans des camps souvent, leurs logements sont à part, comme les logements des militaires, etc. Et donc, alors même qu'eux se voient comme radicalement différents, le regard qu'on peut porter est qu'il y a des liens structurels entre les uns et les autres, et ça n'est pas sans importance, puisque sur le terrain, eh bien, les populations qui voient arriver les militaires et les humanitaires en même temps font pas la distinction nécessairement, et vous savez que ça peut donner lieu à des drames, des enlèvements, des massacres. Voilà, c'est sur ce type de questions qu'on essaye de réfléchir. C'est comment le monde se transforme et quels sont les enjeux aujourd'hui de ces transformations des rapports entre militaires et humanitaires.
Je voudrais simplement ajouter quelque chose. Tout à fait, je suis tout à fait évidemment d'accord avec Didier. Je voudrais aussi vous rappeler que cette zone grise entre l'humanitaire et les militaires s'est construite, comme on peut dire, dans un certain moment autour vraiment de la guerre au Kosovo. Il y a des juristes dans la salle. Rappelez-vous que les Nations Unies ont défini la guerre au Kosovo légitime mais illégale. Alors, donc, imaginez-vous qu'est-ce que signifie, qu'on peut dire justement, ce problème, comment construire un devoir, droit d'ingérence qui arrive à légitimer une guerre, qu'il serait considéré pas légal, ok? Donc, imaginez seulement cette phrase, qui c'est pas une phrase, disons, de chercheurs, mais je dirais c'est vraiment c'est construit autour de tous les débats de l'Union Unie et de la Independent Commission for Kosovo, construite après la guerre du Kosovo. Donc c'est pour vous dire la complexité de la...
Merci Mariella, merci Didier. Je prends cette opportunité pour passer un message publicitaire. Si vous voulez entendre plus des les aperçus de Mariella et de Didier, vous pouvez aller sur le site web du Cerium, www.cerium.ca, et cliquer sur Planète Terre et écouter une entrevue qu'ils ont passée ce matin avec Jean-François Lisée et qui va passer aussi à la télévision Canal Découvert, je pense. Je passe tout de suite la parole à Shura Makarimi, qui a participé aussi à ce livre pour rajouter ses 25 sous.
Merci. Alors, moi, je vais parler de ma contribution à ce livre, une contribution qui prend comme point de départ, en fait, un travail commun qu'on a mené avec Mariella Pandolfi, ma directrice de thèse, et qui a donné lieu notamment à un article sur la sécurité humaine dans la revue Parachute en 2006. Un travail qui prend aussi comme point de départ une contribution antérieure que j'avais fait en 2004 au rapport du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement, sur le rapport annuel en fait du PNUD sur l'Afghanistan en 2004, qui s'appelait Security with the Human Face. Et en fait, Security with the Human Face, c'est une bonne introduction pour arriver à cette notion de sécurité humaine, qui est une notion relativement chère au Canada. Et diffusée au Canada, sur laquelle j'ai essayé de réfléchir en essayant de comprendre ses origines qui sont récentes dans les deux dernières décennies et ses évolutions. Et je suis partie un peu de la différence qu'il y avait entre cette notion qui est utilisée par les politiques publiques et diffusée quand même dans le monde médiatique, et on en voit notamment les manifestations au Canada, et qui fait l'objet de multiples centres, enfin de centres de recherche, de programmes de recherche académiques, qui épousent la notion de sécurité humaine et essayent de la faire avancer. D'autre part, il y a des vues critiques sur ce que veut dire la sécurité humaine, comment est-ce qu'elle a été générée et finalement à quoi est-ce qu'elle mène, des vues critiques qui sont relativement proches aussi des questionnements qui sont à l'origine du livre. Et pendant longtemps, il y avait une espèce d'absence de dialogue entre ces deux parties-là, de même qu'il y avait peut-être une séparation entre le point d'origine de la notion de sécurité humaine qui a été développée par des économistes, notamment Amartya Sen, prix Nobel d'économie, et des développementalistes du bureau du PNUD, donc du programme des Nations Unies pour le développement, qui eux y mettaient une notion, on avait une approche plus économique. Et la façon dont elle a été reprise, refaçonnée, réappropriée dans des agendas plus tournés justement vers l'intervention, vers l'humanitaire et vers une approche sécuritaire. Les différents acteurs, qui soient institutionnels ou qui soient sur le terrain, ou que ce soit des personnalités du monde politique, disaient chacun, nous n'avons pas la même conception de cette notion, nous ne parlons pas de la même chose en fait quand nous disons sécurité humaine, et refuser ce que l'autre camp entendait par cette notion-là. Et ce que l'article essaye de faire, c'est d'essayer de voir comment au contraire il y a une circulation de la notion, comment est-ce qu'elle naît dans un certain contexte plus développementaliste, qui essaye de repenser les besoins fondamentaux en termes de sécurité, et donc penser des seuils de sécurité minimum, donc thresholds of security, et notamment parce que au début des années 90, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU, donc je suis quand même dans une approche un peu institutionnelle, essayer de voir comment la notion est née et à naviguer dans les institutions, mais quand au début des années 90, le Conseil de sécurité à la fin de la guerre froide, a repris du poil de la bête et plus d'activité, puisqu'elle a connu un déblocage interne. Comment est-ce que reformuler des questions qui étaient peut-être avant plus posées en termes de droits fondamentaux ou de besoins, reformuler ces questions-là en termes de sécurité, permettait de les faire avancer et d'obtenir des crédits. Et ce que j'ai essayé de voir, c'est regarder comment est-ce que cette notion-là de sécurité humaine, une fois qu'elle a été posée, a été réappropriée, redéfinie au sein même de l'ONU par d'autres institutions et notamment au sein du Conseil de sécurité et des groupes de réflexion qui sont derrière, qui trouvaient que penser en termes de besoins fondamentaux, c'était beaucoup trop vaste et on n'arrivait à rien. Il fallait commencer à hiérarchiser et se recentrer sur un noyau fondamental de ce qui serait de l'ordre de du safety et le ministre des Affaires étrangères canadien Axworthy a beaucoup fait pour reconceptualiser et pousser cette idée-là de safety, de sûreté fondamentale du corps qui a besoin d'être sécurisé. Et comment est-ce que, à partir de cette reconceptualisation-là qui plus sécuritaire et plus fondée sur le corps et la sécurité des personnes, la notion a continué son voyage jusqu'à inspirer des travaux de groupes de réflexion qui en sont venus à reproblématiser la question de l'intervention, justement de l'interventionnisme militaire, et à penser la question de l'intervention et de la souveraineté et l'aporie de l'intervention contre la souveraineté en termes de responsabilité à protéger. Et c'est Kofi Annan, secrétaire général, merci, de l'ONU à l'époque, qui posait la question en termes de la souveraineté des États s'accompagne de leur responsabilité à protéger leur population, et s'ils ne sont pas capables eux-mêmes de prendre en charge cette responsabilité ou d'assurer d'être à la hauteur de cette responsabilité-là, alors il y a un rôle de la communauté internationale, et donc on peut essayer d'assouplir, de refaçonner la porie ou la contradiction entre intervention et souveraineté à partir de la responsabilité à protéger. Donc voilà moi ce que j'ai regardé. Ce qui m'a intéressé dans une partie, et je finirai là-dessus, un peu en dessous de l'analyse institutionnelle ou de l'analyse des discours, c'est de voir comment les acteurs spécifiques qui ont joué un rôle dans la reconceptualisation et des acteurs qui sont vraiment à l'articulation entre le monde académique et le monde des policy, des agenda making, de tout ce qui est conseiller les politiques ou être dans des groupes où on va faire des rapports qui ensuite vont avoir du poids au sein des institutions. Ces acteurs-là sont eux-mêmes des acteurs qui ont évolué à partir d'une position beaucoup plus utopiste dans les années 70 et 80 et qui en sont venus à renégocier leurs propres utopies que ce soit au sein du désarmement, militer pour un désarmement nucléaire mondial, comme c'est le cas de Marie Kaldor, qui a beaucoup poussé la notion de sécurité humaine en Union européenne, ou bien Amartya Sen, ou encore Mario Betati, qui est à l'origine du droit d'intervention avec Bernard Kouchner, qui, eux, étaient pour une troisième voie économique dans un nouvel ordre économique international dont personne ne se souvient, mais qui était énormément investi par les pays non alignés au moment de la guerre froide, qui était vraiment une façon de repenser l'ordre économique international. Ces gens-là ont aussi renégocié leurs propres utopies, peut-être, à travers la notion de sécurité humaine. Donc je me demandais qu'est-ce qui restait et en quoi est-ce que cette sécurité humaine aujourd'hui est un reste ou un voyage de ce reste d'utopie qui a marqué les décennies antérieures.
Merci beaucoup, Shora. Tu as parlé des utopies et ça me rappelle qu'une fois, moi aussi, j'étais jeune et idéaliste. Et j'ai même une confession à vous faire. Quand j'avais 16 ans, je voulais devenir avocat et puis aller en politique. Et je pensais que comme ça, j'allais sauver le monde, sauver les pauvres, les opprimés, les dominés, que c'était ça la voie royale pour changer le monde. 30 ans plus tard, je vois ma filleule en France et je dis à Chloé, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras fini à l'école? Elle me dit, elle me regarde comme si j'étais fou, elle me regarde, ben, de l'humanitaire, quoi. C'était comme une évidence pour elle que l'humanitaire, c'était la manière de changer le monde. Et en fait, c'est cette... Ce qui m'intéresse à ce livre et ce qui devrait vous intéresser, je pense, c'est ce changement de paradigme, ce changement d'utopie fondamentale qui a eu lieu récemment, entre ma génération et celle de ma filleule, certainement. Mon idée de devenir avocat n'avait aucun bon sens pour elle. Et dans ma contribution à l'ouvrage collectif, j'ai écrit ce que j'aurais voulu dire à ma filleule pour la désabuser un peu de la notion que l'humanitaire était nécessairement pour le bien. Pas forcément que ce soit pour le mal, mais que c'était des... Il fallait regarder de près ce qu'on faisait, ce qu'on prêchait. Je vais vous épargner ma contribution au volume. Je vous invite à lire le livre qui est disponible en vente ici même. Donc, ne partez pas sans votre exemplaire, s'il vous plaît. Ceux qui nous écoutent à la radio, vous pouvez venir aussi à la librairie Olivieri sur Côte-des-Neiges pour vous le procurer. Donc, ceci dit, c'est ce shift paradigmatique que je pense que ce livre nous permet de penser. Bon, contrairement à nos deux prochains intervenants, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire toutes les 15 contributions à ce volume. Donc, je vais tout de suite céder la parole à des personnes qui peuvent parler avec plus d'intelligence sur ce qu'il y a dans le livre que moi. Et dans un premier temps donc, je vais vous présenter Serge Marcoux. Comme j'ai déjà dit, c'est l'ancien ambassadeur du Canada en Bosnie-Herzégovine qui a été intervenant pendant cette période charnière qui a été aussi un moment de changement de paradigme. Et je suis curieux d'entendre comment Serge Marcoux a réagit à sa lecture de ce livre.
Eh bien, pour être tout à fait franc, je me sens un peu ce soir comme Daniel dans la fosse aux lions, en ce sens que je suis le seul praticien au milieu d'un panel de brillants universitaires. Mais c'est justement en tant que praticien, en fait, que ce livre m'a intéressé, parce qu'il apporte différents éclairages, en fait, sur un phénomène de pouvoir relativement nouveau, mais qui peut faire trembler certaines autorités. Ce phénomène, justement, des interventions militaires ou humanitaires. Et ici, je pense à Robert Mugabe, par exemple, qui, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, a mis à la porte les organismes humanitaires qui osaient dire qu'il y avait la famine dans son pays. Je pense aussi au président Karzai, qui, la semaine dernière, a dit de façon très peu diplomatique aux Occidentaux ce qu'ils pensaient de leur tentative d'imposer leur conception de la démocratie, et en particulier de l'organisation des élections, à son peuple, qui est tout de même beaucoup plus ancien que ceux qui sont venus leur prêcher l'évangile de la démocratie. Je ferai simplement 3 réflexions que ce livre m'a inspirées. La première, c'est qu'il est peut-être délicat de parler d'intervention militaire, comme s'il n'existait qu'une seule culture militaire. En fait, il existe autant de cultures militaires qu'il existe de peuples. Pour vous donner seulement 2 exemples tirés de mon expérience, lorsque les militaires états-uniens apparaissaient en public en Bosnie-Herzégovine, ils devaient être 3, tous porter leur casque pare-balles, leur gilet pare-balles, et 1 des 3 devait avoir une mitrailleuse. J'ai dû, à un moment donné, faire un voyage d'une 100 kilomètres à travers la Bosnie en suivant un convoi militaire états-unien qui roulait à 50 km à l'heure dans le milieu de la route pour éviter que quiconque puisse les dépasser et dont le militaire dans la benne arrière tenait un fusil mitrailleur pointé en notre direction. Je peux vous assurer que cette journée-là, je souhaitais qu'il y ait beaucoup moins de nids de poules en Bosnie-Herzégovine qu'il n'y en ait dans les rues de Montréal. Au contraire, dans l'armée canadienne, nos soldats étaient encouragés à aller passer, en fait, leur temps libre dans la population locale à des activités de reconstruction. Et je pense, entre autres, à un contingent du Québec qui avait des liens particuliers avec une usine québécoise qui faisait de l'équipement de parc de jeux pour enfants et qui, pendant les 6 mois de son séjour là-bas, a travaillé à reconstruire les parcs pour enfants. Il y a, dans cette approche, si vous voulez, et surtout dans la réception que la population locale fait, un monde de différence. En fait, le plus grand problème au niveau de nos troupes, c'est que leur séjour ne durait que 6 mois et que, par conséquent, après leur départ, il fallait tout recommencer avec le groupe qui les suivaient. Donc, il est difficile de parler de militarisme ou d'intervention militaire comme s'il n'y avait donc qu'une seule culture militaire. Encore tout à fait différente est ce que Paola Vasquez Lezema nous dit dans le chapitre qu'elle consacre à « Compassionate Militarization » et où elle nous parle du rôle de l'armée au Venezuela dans une situation de crise où un dictateur militaire de gauche, Hugo Chavez, s'est appuyé sur l'armée pour asseoir son pouvoir personnel sur la population. Donc, non seulement il n'y a pas une chose que l'on peut appeler une culture militaire, mais le débat entre aide humanitaire et aide militaire, comme le disait si bien M. Fassine tout à l'heure, me semble de plus en plus dépassé. Plus le désastre ou la guerre se produit dans une contrée difficilement accessible, plus les militaires sont les seuls à pouvoir intervenir efficacement ou à ouvrir le chemin aux organismes humanitaires. C'était déjà vrai il y a 15 ans en Bosnie-Herzégovine, alors que le Canada avait au sein de la SFOR le grand contingent d'ingénieurs, les seuls qui pouvaient rebâtir des ponts. Et je me suis souvent retrouvé à faire, si vous voulez, l'intermédiaire entre les deux. Évidemment, et comme vous disiez tout à l'heure, les humanitaires, quelquefois, n'aiment pas parler aux militaires et vice-versa. Donc, ça prend des diplomates pour aller dire au colonel, Care Canada voudrait bien aller en Republika Srpska, mais il manque un pont sur telle ou telle rivière. Est-ce que ça pourrait faire partie de vos priorités de demain, par exemple? Et on voit à ce moment-là qu'il n'y a pas contradiction entre les deux, mais souvent, au contraire, collaboration commune. Plus près de nous, je pense à Haïti, où c'est grâce, en fait, finalement, aux militaires qui ont, d'une part, ouvert la voie aux organismes humanitaires en ouvrant le port, l'aéroport, mais où les soldats canadiens ont établi un hôpital et se sont eux-mêmes transformés en organismes humanitaires. Ma deuxième remarque portera justement sur ce concept d'humanitaire. Et là, je pense que en lisant le livre, on parle tout au long du livre des grands organismes reconnus comme CARE, Oxfam, la Croix-Rouge ou le préféré manifestement des anthropologues, Médecins sans frontières. C'est oublié, je pense, que dans le monde de l'humanitaire, il y a de plus en plus de projets, d'actions qui sont faits non pas par des grands organismes reconnus, mais par des corporations professionnelles dont les membres veulent apporter leurs compétences, leur savoir dans des régions dévastées. Je pense encore là, en Bosnie-Herzégovine, notre plus gros programme n'était pas celui de CARE Canada, qui apportait secours aux gens les plus démunis, mais plutôt l'Université Queen's, dont la faculté de médecine, en fait, avait instauré un programme de médecine familiale. Alors, en quoi ou comment, quelle perspective ces gens apportent à l'aide humanitaire? C'est un domaine, je pense, qu'il y aurait lieu d'étudier. En quoi leur conception est-elle différente de celle des organismes humanitaires classiques? Et mon dernier point sera peut-être sur le fait que s'il y a véritablement une bataille, ce n'est pas tellement entre militaire et humanitaire, mais plutôt entre ce que M. Fassin appelle très justement, je pense, les urgentistes, et ce qu'un autre auteur dans le volume appelle avec très beaucoup de finesse les activistes sans frontières. C'est « do-gooders » que Mme Pandolfi décrit si bien dans le chapitre qu'elle consacre aux Balkans. Les premiers, les urgentistes, si vous voulez, qui peuvent être à la fois des militaires ou des gens comme la Croix-Rouge, ceux qui veulent apporter un secours immédiat à une situation d'urgence et qui repartent, s'opposent diamétralement à ceux qui veulent réformer une société. Et là aussi, je pense, quand je me rendais à Sarajevo pendant le blocus, les quelques fois où j'ai pu y aller, on n'était qu'une cinquantaine d'internationaux à Sarajevo, au gros maximum. Les accords de Dayton signés, on a vu s'abattre sur nous toute une nuée de ces activistes sans frontières venant enseigner l'égalité des sexes, les droits de la personne, la bonne gouvernance, etc. Et évidemment, à part quelques exceptions, aucun de ces personnes, dont je ne doute absolument pas de la bonne volonté, ne parlait la langue du pays et n'arrivait à se faire comprendre ou à comprendre. Je me souviens même d'un projet, peut-être le meilleur en ce genre, qui avait été piloté, si ma mémoire est bonne, par le Conseil de l'Europe, qui avait amené des spécialistes des droits de la personne en Bosnie pour réécrire l'histoire de la Bosnie de façon politiquement correcte et pour montrer que dans ce pays, tout le monde, il était beau, tout le monde, il était gentil. Malheureusement, pour mon copain Goran, qui était serbe et qui a vu son frère tué sous ses yeux par un bosniaque, ou pour les Croates des camps de concentration d'Omarska, des camps de concentration serbes, ceux-là, ça ne passait pas très, très bien. Et je pense rejoindre ici ce que M. McPhail disait au chapitre 13 sur le caractère thérapeutique, mais toujours violent, d'une intervention, qu'elle soit militaire ou humanitaire. Pour la population de Sarajevo, qui venait de terminer, en fait, 4 ans, à passer des hivers, et je vous rappelle qu'il y a eu des jeux d'hiver à Sarajevo, donc il faisait froid, sans chauffage, des étés sans eau, leur volonté était essentiellement de retourner à ce qu'ils considéraient déjà comme le bon temps du titoïsme, même si, en fait, le titoïsme avait été responsable de l'éclatement de la Yougoslavie. Mais c'est une chose que l'on voit, en fait, dans le chapitre sur la catastrophisation. Les populations qui sont prises dans de telles tourmentes ne rêvent que de retourner à leurs anciennes habitudes, et le moment est très mal choisi, que ce soit pour les apôtres de la démocratie absolue comme George Bush, ou d'autres, d'essayer de réformer les coutumes à ce moment-là. Il faut apprendre, et c'est ce que nous apprend le chapitre 2, qui a été rédigé par Afil Ofir, que quand les gens vivent une grande catastrophe, il faut leur laisser le temps de se reprendre en main eux-mêmes et de ne pas essayer de pousser ou d'imposer surtout nos valeurs sur des civilisations souvent beaucoup plus anciennes que les nôtres, ni meilleures, ni pires, mais différentes. Il faut avoir le courage, la patience, d'attendre que ces gens surmontent leurs propres difficultés pour là arriver à les aider à plus long terme. Merci.
Merci infiniment, Serge. Marielle veut réagir rapidement.
C'est pas réagir, c'est... J'ai dit, malheureusement, on ne s'est pas rencontrés. On était, lui, elle était l'ambassadeur. Moi, j'ai travaillé pour l'organisme des Nations Unies en 97. Mais je pense, Serge, que vous vous rappelez, une des choses qui m'avait troublé justement, c'est le désir de revenir à la vie normale. Et dans cette Sarajevo détruite, oui, des différents bâtiments, il y avait la place où il y avait les grands jeux d'échecs.
Ah, oui,
hein?
Oui, oui.
Et où il y avait de plus en plus les gens qui venaient sur cette petite place autour de cette ville complètement détruite et qui posaient dans cette petite place. Il y avait ces grands jeux d'échecs, mais disons sous la place. Hein? C'était pas. C'était très émouvant. Oui. Merci.
Je passe maintenant la parole au professeur Gilles Bibeau du département d'anthropologie de l'Université de Montréal.
Mais, merci, Laurence. Je pense que Mariella et Didier m'ont invité à fournir une lecture critique de ce formidable ouvrage, 15 chapitres, où on fait un tour du monde, parce qu'ils n'ont pas oublié qu'il y a 20 ans, c'était leur premier livre, et que j'en avais fourni la même année une recension critique. C'était les itinéraires des émotions pour Mariella et pour Didier, c'était alors pouvoir et maladie en Afrique. Et comme mes recensions étaient très élogieuses, ils se sont dit, sans aucun doute, va-t-il lire cet ouvrage avec un regard positif. Alors,
nous sommes découverts.
Voilà. Alors, j'aurai aussi trois commentaires principaux, mais je le ferai précéder de quelques questions. Donc, comme vous, M. Marcoux. Et je commence par une question. Qu'est-ce qui est arrivé de vraiment neuf depuis un demi-siècle? Je dis un demi-siècle parce que c'était les décolonisations. C'était les années 60, c'était la Révolution tranquille ici aussi. Nous participions de ces décolonisations. Et si nous regardons ces 50 ans, on peut dire que, de façon certaine, dans un domaine, celui des relations internationales, des événements, donc des rapports entre les pays du monde et les grandes organisations internationales et le rôle qu'ils jouent dans le monde, tout cela nous a fait apparaître des événements inouïs qui sont là et qui constituent un formidable défi pour la pensée en sciences politiques, en sciences sociales, pour le droit et un petit peu, je dirais, pour tout un chacun. On se demande vraiment ce que notre monde au cours de ces 50 ans est devenu. On nous dit, nul gouvernement ne pourra plus se permettre de maltraiter une partie de sa population vivant sur son territoire sans que d'autres pays ne bougent, sans que ses voisins n'agissent, sans que des organisations humanitaires internationales n'interviennent. Et il faudrait tout de suite ajouter, sans que les pays les plus puissants de la planète soient présents, parce qu'il ne s'agit pas de la présence internationale de la Chine ou de l'Inde, mais véritablement de l'Occident. Et encore au sein de l'Occident, comment se fait-il que les Russes ont pu de manière impunitive véritablement faire ce qu'ils ont fait au moment où précisément nous parlions du droit d'ingérence. Nul État ne pourra plus en agresser impunément un autre sans que d'autres pays ne bougent, sans qu'ils interviennent en quelque sorte. C'est un événement de taille et qui s'est déployé dans toute une série de domaines et très rapidement, j'en cite trois, la réponse en quelque sorte thérapeutique qui peut-être a été au tout début de ce qui va devenir l'humanitaire, de prendre soin des victimes, les blessures psychiques, accompagnées par toute une réflexion sur les traumas, les post-traumatic stress disorder, donc cette notion de traumatisme que nous allons transposer de la présence de militaires sur le front vers les catastrophes naturelles et vers des événements qui sont des conflits sociaux. Et donc, il est incontestable que cette médecine, psychiatrie humanitaire va donner le ton, dans, comme beaucoup d'auteurs l'ont bien montré, dans l'urgence, dans une discipline des corps, dans présence compassionnelle, et beaucoup utilisent ce terme avec, je trouve, beaucoup d'aplomb dans les différents chapitres qui ont été faits. Et simplement pour vous parler du vocabulaire qui est un nouveau glossaire véritablement dans les sciences sociales, Mariella nous parle continuellement de transition permanente. On ne sort jamais, en quelque sorte, du mouvement. Mon voisin ici parle de benevolent dictatorship. On a la militarisation compassionnelle, les tensions en devoir de charité et tentations impériales, etc. Il y a tout un vocabulaire qui est là et qui est d'une très, très grande richesse pour les sciences sociales. Une première réponse, je dis bien thérapeutique, elle va être extrêmement importante. Une deuxième réponse qui est juridique, et elle est mise de l'avant aussi, je pense qu'il aurait été intéressant de dire un petit mot du tribunal pénal international, où les chefs d'État, quand même, ce qui s'est passé avec Milosevic, avec Charles Taylor du Liberia et les autres, et ce tribunal qui... et les commissions aussi de justice, vérité, réconciliation. On essaie de penser sur le plan social les conflits qui se sont produits. Et en même temps, la très grande force de cette nouvelle culture des droits de l'homme. Cet agenda, disons-le, réduit strictement de mon point de vue à la première génération des droits, c'est-à-dire les droits civils et les droits politiques, mais amputés des revendications des droits sociaux, des droits économiques, droit au travail, droit à la santé, droit à l'éducation, etc. C'est assez rare qu'on voit nos pays riches se battre pour que ça advienne d'une façon importante, et c'est encore bien plus rare qu'on mettra quelqu'un en procès pour ne pas avoir, en quelque sorte, répondu à ses droits. Mais on le mettra en procès, un chef d'État, s'il n'a pas fait en sorte qu'il y ait des élections libres et qu'il y ait des systèmes de partis politiques. Nous nous rendons bien compte. Et nous sommes bien loin, je dis bien, bien loin, de la quatrième génération des droits, qui est le droit à la différence au sein du monde, sur cette Terre, sur cette planète Terre, où nous continuons encore à être les agents, en quelque sorte, de promotion d'une version particulière de l'humain, et que nous le faisons peut-être de bonne volonté, mais qui n'est pas encore suffisamment attentive au droit à la différence, au pluralisme. Il y a une troisième réponse qui est advenue très, très rapidement, et elle est très, très bien documentée. C'est les interventions militaires. Faire la guerre en disant qu'on fait la paix. Ne parler que de paix, mais en même temps faire la guerre. C'est quand même des contradictions absolument hallucinantes. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé avec l'accord du Conseil de sécurité ou sans l'accord du Conseil de sécurité. Et pendant ce temps-là, on tournait la page, sauf en Afrique. Les seules 6 grandes missions des anciens casques bleus se retrouvent en Afrique, particulièrement au Congo, en l'Est, où on a quand même 18 000 soldats de ces forces. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas ailleurs et qu'on a autorisé des pays occidentaux à répondre, à aller apporter la paix, la pacification, parce que des dictateurs étaient là. Ces réponses sont très mêlées, elles sont les unes dans les autres, et je trouve que le travail montre bien à quel point tout ça s'interpénètre d'une façon telle qu'il nous faut une nouvelle réflexion théorique. Les fieldwork, les études de cas sont extrêmement intéressantes, toutes. Elles sont intéressantes. Je dois dire que tu es passionné, on entre dans le terrain. Vous avez évoqué, M. Marcou, Chavez, et comment une réponse à une catastrophe naturelle permet de militariser et en quelque sorte de contrôler les populations. Et nous avons ces dérives un petit peu partout. Or, il ne suffit pas de décrire dans toute la richesse ce qui se passe. Il faut innover sur le plan des concepts, et la réflexion théorique est aussi, je dirais, extrêmement riche ici, dans où on court-circuite les divisions disciplinaires. On va du côté du politique, le juridique est là, l'économique est là, le sociologique, l'anthropologique, on prend tout ça en considération et je pense que véritablement il y a une grande avancée dans la réflexion de la manière dont le maillage des interventions humanitaires et des interventions militaires se font. Et même quand je pense aux les études sur Médecins sans frontières et entre autres, Didier a consacré un chapitre, mais il y a aussi un autre chapitre sur en Afrique de l'Est, mission Médecins sans frontières, mais aussi les différences avec Médecins du Monde, par exemple, lorsqu'ils sont confrontés sur un même site, au même endroit, les positions différentielles et nous faire entrer en quelque sorte dans ces liaisons différentielles au sein même de l'humanitaire, qui est multivocale en quelque sorte. Et le troisième point qui est extrêmement intéressant, mais je suis toujours dans mon introduction, hein, c'est l'engagement politique. Alors je vais aller très très vite pour mes trois points qui sont des points où j'aimerais avoir des réponses. Et il s'agit en quelque sorte de la périodisation de l'histoire ou de la ponctuation. Bien sûr, on peut dire que les États souverains, on peut les référer au traité de Westphalie ou un petit peu plus tard, ils ont duré. Mais notre âge, ce que nous vivons, est-il tellement exceptionnel? Y a-t-il vraiment eu rupture là, quelque part? Je retournais dans l'âge de l'Empire de Erich Hobsbawm pour voir ce que Cécile de Rhodes faisait en Afrique, ou vous-même, parlant de Kurtz et transformant le cœur des ténèbres au cœur de l'humanitude, si nous retournons à ce personnage de Kurtz inventé par Conrad, il représente le civilisateur Léopold II qui fondamentalement y va pour chasser les esclavagistes arabes. C'est tout ça qui est dans la ligne de tir de ces premiers humanitaires qui étaient là. Même le cardinal Lavigerie envoie ses pères blancs aussi en Afrique précisément pour moraliser. Est-ce qu'en fait, il y a quelque chose qui a changé? Ou est-ce que c'est une nouvelle position du regard sur une continuité de l'histoire? Et où est-ce que c'est l'invention de nouveaux concepts qui nous permettent de voir autre chose que les autres n'ont pas vu nécessairement à l'époque. Donc, c'est une question que je me pose. Sommes-nous véritablement entrés dans des temps nouveaux ou est-ce que nous sommes simplement en face d'une lecture différentielle, d'une continuité des phénomènes? La deuxième chose, la vision en termes de catastrophe qui incontestablement domine, reprise par les médias et servant en quelque sorte presque de lunettes pour voir ce qui se passe ailleurs. Or, dans l'ouvrage, et de façon, pourrait dire, intentionnelle, il y a des chapitres qui portent sur des désastres naturels. Tsunami, assez, donc avec les goudes, les tremblements de terre qui sont étudiés, phénomènes d'inondation, etc. On a 5 de ces chapitres qui se réfèrent à des désastres naturels, puis on a des conflits sociaux et des guerres véritablement au sein d'un pays, génocide du Rwanda, massacre du Darfour. Peut-on penser ces deux ordres de phénomènes à partir d'un même cadre théorique? Pour moi, c'est une question très difficile. Il est bien sûr que dans un cas comme dans l'autre, la réponse qui veut créer de la solidarité dans l'aide internationale et va, elle aussi, se structurer à peu près dans la même rhétorique, incontestablement. C'est aussi vrai que la réponse compassionnelle va prendre des formes relativement semblables. Et quant à la presse internationale, elle va user à peu près du même langage. Mais est-ce que nous ne gagnerions pas à établir une distinction assez forte entre les désastres naturels, d'une part, et les conflits sociaux et politiques, d'autre part? Parce qu'ils ne donnent pas lieu seulement à une même logique d'intervention, donc fondée sur l'urgence, mais il y a une nécessité, là, d'analyse des sources politiques et, qui ont conduit à l'apparition des conflits. Ceci étant dit, c'est, je crois, que l'éclairage d'un phénomène par l'autre nous permet de mettre sous la lumière des espaces obscurs, des tâches là, incontestablement, mais est-ce qu'on peut quand même désarticuler l'un de l'autre? C'est une question que je pose. Troisième et dernière chose, le droit d'ingérence, le principe de l'intervention, la souveraineté. Je trouve la plupart des auteurs très tolérants à l'égard de ce principe, au nom de la défense des victimes. Bien sûr, j'ai vécu suffisamment dans des pays où j'ai vu des choses inacceptables et qui exigeaient une intervention et une participation dans un effort de se mettre du côté des victimes. Mais cet affaissement ou fléchissement de la doctrine de la souveraineté des États me semble tellement être appliqué de manière inégale dans le rapport du monde occidental au reste du monde que je crois il faut le dénoncer. Il m'apparaît essentiel de bien mettre cela en évidence. Au moment où nous savons qu'en Tchétchénie, les non-dénonciations, en dehors d'organisations humanitaires, mais les gouvernements, tant en Europe, Union européenne, en Amérique du Nord, nous savons aujourd'hui de mieux en mieux pourquoi ça ne s'est pas fait. Mais pourquoi donc ça ne s'est pas fait? Et pourquoi ne pas le dénoncer? Il aurait été intéressant qu'il y ait sur la Tchétchénie quelque chose là. De manière encore un petit peu plus précise, la date de Jarrett, oui. La date de 71... qui est mise comme un point tournant, en quelque sorte, de la création d'abord de Médecins sans frontières, mais aussi de l'intervention de l'Inde dans le conflit entre le Pakistan et la création du Bangladesh, puisqu'on avait un Pakistan oriental et occidental, et que là, d'abord parce que l'Inde est fortement bengali et qu'il y avait les bengalis de l'autre côté, plutôt que 89, la fin des régimes et la chute du mur de Berlin, ça aussi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et ça fait réfléchir à la presque impossibilité de segmenter l'histoire. Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Tout en disant qu'il me semble y avoir une très grande continuité, il y a quelque chose de nouveau. Je termine en disant que c'est un livre absolument exceptionnel. Un livre absolument exceptionnel qui, je suis sûr, va avoir une très, très grande réception dans les milieux anglophones, américains. C'est un livre, je dirais, critique de part en part. On ne prend pas position, mais qui ne dit pas d'une manière explicite en soulignant ici, c'est une critique, mais simplement dans les descriptions qui sont fournies. Et vraiment, je remercie beaucoup mes deux collègues. Je me rappelle très bien cette première rencontre à l'Université McGill lorsque Didier est venu et qui a été le début de cette collaboration entre Mariella et Didier Fassin. Et c'est magnifique que ça ait pu aboutir à cela. Mais je reste quand même avec les trois questions que j'ai posées. Voilà.
Merci. Et avant de permettre aux deux directeurs de l'ouvrage collectif de répondre, on va ouvrir au public pour vous permettre de poser des questions aussi. Et je vous signale aussi qu'après la période de questions et de réponses, il y aura aussi une réception avec une sélection des fromages du Québec et des vins qui ont été choisis pour les accompagner. Et tout cela, c'est un petit cadeau du groupe de recherche sur les interventions militaires et humanitaires du Centre canadien d'études allemandes et européennes. Et puis, oui, ça c'est le... Ça, c'est l'humanitaire qui va suivre tout cela. Je demanderai à la première personne qui va aller au micro de l'ouvrir, s'il y a quelqu'un qui veut se présenter.
Oh, il est ouvert. Bon, alors, donc, je voudrais poser une question à Shaoram Akermi. C'est au sujet justement de la mesure. On entend bien? De la mesure de la sécurité humaine. Ça me fait penser un peu, justement, d'ailleurs, c'était Amartya Sen qui était cité, justement, à toute l'entreprise qui a été faite pour lutter contre la pauvreté. Donc, il s'agissait finalement de mesurer la pauvreté. Et donc, en fait, il y a à peu près 25 ans qu'on lutte contre la pauvreté avec ces genres de mesures. Et donc, on voit très bien que cette mesure, en fait, c'est un type de gouvernance, comme on dit aujourd'hui. La sécurité humaine, c'est peut-être un autre problème. Moi, j'ai travaillé notamment sur Haïti. Et justement, travaillant sur Haïti, j'ai repris cette notion d'Anna Arendt, de désolation. Il y a une partie importante de la société haïtienne qui vit dans la désolation. Désolation, ça veut dire des personnes qui n'ont plus de rapport avec eux-mêmes, qui ne participent plus à un monde en commun et qui fonctionnent un peu comme des machines ou comme des voyous, effectivement, aussi. Et donc, en fait, cette désolation, c'est un phénomène qui s'est développé dans des rapports politiques. Bon, d'abord séculaire, puisqu'effectivement, c'est la négation qu'on a posée à Haïti de participer au monde en commun occidental, disons. Mais aussi, c'est le résultat de la fascination des élites haïtiennes vis-à-vis de cette déshumanisation des gens. Alors, par rapport à ce genre d'analyse, qui, à mon avis, est plus politique, je m'inquiète un petit peu de la manière dont on peut partir avec une mesure de la sécurité humaine. Parce que je vois qu'effectivement, là, on rentre dans toute la logique de l'urgence. Bon, il s'agit de donner une sorte d'ordre de priorité, donc il faut le mesurer. Donc, évidemment, la mesure, c'est le moyen d'entrer dans l'urgence. Voilà, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions du public ou est-ce qu'on passe tout de suite à une réponse de Shora ou... OK, madame. Madame Denise Ely.
Des questions très simples. Comment vous expliquez socio-historiquement, disons, l'apparition de la notion de droit d'ingérence? La notion de génocide est là depuis la guerre 45. Pourquoi le droit d'ingérence à une population maltraitée ou menacée de génocide apparaît 40 ans après? Donc ça, je serais curieuse de vous entendre. Est-ce que vous articulez cette apparition, puisque vous la datez, si je comprends bien, des années 90, avec tout le discours de légitimité par la sécurité et toute la nouvelle fonction des États de lutter contre les insécurités, qu'elles soient urbaines, terroristes, biologiques, médicales, tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous articulez ça avec le droit d'ingérence ou pas? Et puis une autre question, qu'est-ce que c'est le critère d'intervention? C'est la menace de mort, de disparition? C'est la mort? C'est quoi? Parce que Gilles parlait de la Tchétchénie. Mais on peut penser à toutes les tribus, par exemple, qui sont en train de disparaître en Asie pour des raisons politiques, qui sont complètement attaquées. La Birmanie au premier rang, on n'en parle jamais, il n'y a jamais d'humanitaire. Bon, alors, ça. Et puis, j'avais une quatrième question, j'ai oublié.
D'autres interventions du public pour l'instant? Sinon, je passe la parole d'abord à Shora et ensuite aux deux directeurs.
Oui, merci de votre question. Donc pour, en ce qui concerne ce seuil de sécurité, justement, qui a essayé d'être mesuré, notamment par ces économistes actifs au sein du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est que je me suis pas beaucoup appesantie sur le seuil de sécurité et la mesure de ce seuil qui renvoie à des notions d'économétrie en lui-même. Mais ce qui m'intéressait, c'est la façon dont il rentrait en dialogue avec l'extension de la notion même de sécurité et la création de réseaux de sécurité. Et là, je m'expliquais avec un exemple. Un exemple qui va montrer justement le voyage de cette notion-là au-delà des clivages entre économiques, sécuritaires, etc. Après septembre 2001, il y a eu un certain nombre de personnes et notamment des gens qui travaillaient dans l'humanitaire ou dans des ONG comme International Crisis Group qui ont écrit pour dire que la menace des talibans était créée par les conditions de vie dans les camps de l'UNHCR au Pakistan et que donc c'est l'insécurité fondamentale quotidienne dans laquelle vivaient les réfugiés afghans et notamment la socialisation des garçons, notamment les problèmes de maladie, de santé mentale, de prise en charge, de déculturation. Peut-être que ça aurait à voir avec un certain aspect de la désolation, qui en tout cas ont mené à une resocialisation à travers les talibans, qui a mis en péril non seulement la région, mais également le monde entier. Et en fait, on a eu à ce moment-là, par exemple, un discours de la ministre du Développement au Canada qui disait que intervenir en Afghanistan pour assurer la sécurité humaine des réfugiés afghans, c'était assurer notre propre sécurité aussi. Et parallèlement à ça, ce discours-là, donc qui établit un réseau de sécurité entre leur sécurisation quotidienne et notre sécurité, en passant par des étapes, le régional, le global. Ce discours-là s'est appuyé à un certain moment par des typologies qui ont été faites par les économistes de la première notion de sécurité humaine, qui eux, et on a travaillé avec autour de cette notion avec Mariella Pandolfi, qui eux définissaient la sécurité humaine comme un ensemble de donc la sécurité humaine, c'est quoi? C'est la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale, la sécurité sociétale, la sécurité. Et donc c'est comme s'ils faisaient un oignon de sécurité avec différentes couches qu'on peut donc du plus général, la sécurité environnementale, qui se rapproche comme ça au plus individuel et au cœur vraiment de la sécurité, qui est l'individu dans son corps qui doit être sécurisé. Et donc, quand on met ces deux choses-là en dialogue, parce qu'elles ont été mises, en fait, en dialogue par tous les discours qui accompagnaient aussi des pratiques d'intervention, quand on met ces deux notions-là en dialogue, on voit comment est-ce que le réseau de sécurité qu'ont établi leur sécurité est garante ou est liée à notre sécurité, s'accompagne aussi d'un discours qui va identifier les priorités de sécurisation en s'ancrant au plus près des individus. Et je pense que c'est dans ce domaine-là qu'on peut encore creuser ce qu'on est en train de faire et comment est-ce qu'on est en train d'avoir cette notion-là du corps qui doit rester sain et qui doit être sécurisé.
Je voudrais brièvement répondre, pas de façon exhaustive, peut-être que Didier reprend, soit à l'intervention de Denise, soit à l'intervention de Gilles. Et les problèmes, disons, du droit devoir d'ingérence, hein, qui se situe vraiment à un moment particulier, c'est au début des années 80, en effet. Et là, il y a, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant où une activiste, hein, je dirais très 68 ans dans certains niveaux, est médecine. Donc cette idée, qu'on peut dire, du droit de sauver les corps, et avec un juriste, construisent, qu'on peut dire, d'abord cette attitude, je dirais, l'agir au-delà des frontières et au-delà de l'institution, donc étatique, mais aussi politique en général. Et donc cette idée de dire, qu'on peut dire, on passe les frontières. Je vais sauver les enfants, je vais sauver, je me rappelle très bien cette fameuse photo, non, de Bernard Kouchner, qui montrait, qu'on peut dire, comment était nécessaire de passer les frontières et donc de rompre tous les juridiques qui géraient, disons, les rapports entre individus qui voulaient faire quelque chose et les juridiques de l'État-nation dans lesquels on voulait travailler. Mais la chose très intéressante, c'est qu'à côté de cette idée, on peut dire c'est 68 ans, si on veut faire une étiquette très banale, il y a eu quand même, qu'on peut dire, les bons moments pour en commencer à construire un droit humanitaire. Betati construit les droits humanitaires. Et vous regardez encore tous les... ce qui se passe autour des Nations Unies, comment les ONG se demandent à travers l'article 74, si je me rappelle bien le numéro de l'article, détermine, qu'on peut dire, un pouvoir des ONG qui n'existait pas à l'époque. Donc, ils sont légitimés à intervenir et à partir de là. Donc, nous avons, je dirais, une espèce de parallèle entre, vraiment un agir qui est dans l'ambiance anti-institutionnelle. Il faut penser que presque tous les chefs, pendant des années de l'humanitaire, étaient des gens qui étaient dans les mouvements du 68. Hein. Donc vous trouvez, et là, vous trouvez encore ça dans certains chefs de projet. Vous regardez l'âge, c'est une classe d'âge très typique et très spécifique. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Et répondre à Gilles, je n'aime jamais penser à la continuité. Cet imaginaire que le monde continue à être le même, aussi il y a un changement. Je crois profondément à la rupture, à la disjonction. Et donc, je pense que l'humanitaire, et disons, toute la technicalité, il y a des choses qui rendent, qu'on peut dire, l'intervention différente dans la décolonisation, dans d'autres moments, etc. C'est la technicalité, ce problème d'être, qu'on peut dire, la technique, la professionnalisation très très forte des acteurs, d'une part, au niveau militaire et au niveau, civil, mais nous avons aussi, je dirais, quelque chose encore de plus important, qui sont les médias. Cette possibilité d'être à la fois activiste et acteur protagoniste dans les médias. Donc, cette capacité d'intervenir et d'utiliser aussi l'information à travers les nouvelles technologies, à travers d'autres formes, rendre, qu'on peut dire, le monde de l'humanitaire aujourd'hui différent, profondément différent. Ça, c'est mon idée.
Didier et puis Serge après.
Oui, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec les remarques de M. Marcoux tout à l'heure sur notamment le travail de différenciation qu'il proposait, aussi bien différenciation des cultures militaires que différenciation des types d'intervenants. Intervenants dit humanitaire, ce qui me frappe, c'est à quel point le vocable humanitaire a pris une telle valeur sur le marché des biens symboliques, si on veut parler comme ça, internationaux, que tout le monde cherche à s'approprier ce terme. C'est-à-dire que y compris des gens qui font ce qu'il y a 30 ans on appelait du développement, aujourd'hui sont rangés ou se rangent même dans la catégorie humanitaire, le développement étant en perte de vitesse comme mot, comme référentiel, disons, valorisant. Donc je pense qu'il faut, il faut avoir la mesure de ça, c'est-à-dire à quel point le succès du mot et de ce à quoi il semble se référer, dans l'imaginaire, mais aussi évidemment dans des rhétoriques, dans des pratiques, etc., est telle que tout le monde en veut sa part, jusqu'au militaire. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est un élément important. Deuxième chose, sur la périodisation et la nouveauté dont parlait Gilles tout à l'heure. C'est vrai que je pense que, et du reste dans l'introduction, on évoque le fait que la question de la souveraineté était une question qui était posée dans des États supposés souverains et donc certainement pas dans ce qui était déjà pensé comme des colonies ou des territoires à coloniser. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y avait déjà une inégalité de la doctrine et de son application, et tu as tout à fait raison de rappeler cette période coloniale où, au fond, on se gênait pas trop pour intervenir sans aucune légalité, évidemment. Hein, bon. Donc, mais simplement, je dirais, la question c'est sans aucune légalité, mais avec quelle légitimité ? On intervient avec on se donne une légitimité. Et je pense que dans la dimension, bon, il y a une dimension économique, il y a une dimension géostratégique, etc. Tout ça valait pour hier, vaut pour aujourd'hui. Il me semble qu'un élément de rupture, c'est dans la dimension que j'appellerais, pour faire vite, morale, où dans ce que tu as dit, au fond, on était dans une dimension qui était avant tout civilisationnelle. Il s'agissait de civiliser. Je crois que là, une rupture qui apparaît, disons, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et peut-être même plus précisément dans les années 70-80, c'est on intervient, dans certains cas, on peut toujours faire valoir des éléments civilisationnels, mais je crois quand on intervient au nom de l'humanitaire, on intervient sur la question de sauver des vies et de protéger des populations menacées. C'est-à-dire qu'il y a ce noyau dur, avec après des variantes autour, avec un peu plus ou moins de droits humains, etc. Mais le noyau dur, c'est celui-là. Le noyau dur de légitimation de ces interventions, quand je dis de légitimation, ça peut être des justifications qui correspondent à une réalité, ça peut être des justifications qui ne correspondent pas à une réalité. Mais enfin, le discours de justification est celui de sauver des vies et de protéger les populations, comme ça a été dit. Sur la relation entre catastrophe et guerre, il est vrai que ce sont deux situations très différentes. Et en même temps, elles sont liées. Alors elles sont liées d'une part parce que, dans le cas du Venezuela, sur lequel j'ai travaillé moi aussi, on a une situation dans laquelle la survenue de ce qu'on appelle là-bas en 99 la tragedia, c'est-à-dire des glissements de terrain très importants, cette situation tragique va donner lieu à, alors que Chavez à ce moment-là n'est pas un dictateur, Chavez à ce moment-là est non seulement un homme élu, est un président élu, mais c'est un président qui est entouré de la légitimité du sauveur. C'est-à-dire que c'est, aujourd'hui on peut dire peut-être c'est un dictateur, mais à ce moment-là c'est un sauveur. Hein. Et il y a une dimension de théologie politique qui est extrêmement importante dans ces moments d'exception, dans ces moments de catastrophe. Et donc, quand il déclare l'état d'exception et qu'il envoie les militaires, il l'envoie au nom de l'humanitaire, il l'envoie parce que c'est les seuls qui peuvent sauver, et il l'envoie avec cette espèce de suspension de l'ordre temporel et de l'ordre social où tout le monde croit, et tout le monde croit de bonne foi, hein, c'est pas une mystification, tout le monde croit de bonne foi que tous les êtres humains sont dans la même situation, c'est-à-dire devant la catastrophe, nous sommes tous égaux. Bon. Au bout de 24 heures, cette idée-là est complètement disparaît complètement parce que les gens qui sont plus riches, ils sont évacués en hélicoptère, les gens qui sont plus pauvres, ils sont renvoyés dans des camps de enfin dans leur famille les premiers, les autres dans des camps de réfugiés loin de la capitale, etc. Donc ça marche pas. Mais il y a cette idée là d'une communauté tragique et je crois que cette dimension là est extrêmement forte, presque religieuse. Et on le voit aussi aujourd'hui dans le cas d'Haïti. Je veux dire, quand on écoute Barack Obama et quand on comprend l'urgence dans laquelle il est intervenu, il a été le premier à réagir, à mettre des moyens extraordinairement importants. Il le fait pour, vis-à-vis de l'opinion internationale et aussi de son propre électorat, de montrer qu'il est possible d'envoyer des militaires ailleurs dans le monde pour d'autres raisons que pour faire la guerre. Et il y a un discours là qui est extrêmement fort. Et puis dernier point sur le droit d'ingérence, je crois que tu as tout à fait raison d'insister sur l'inégalité de son application, évidemment, sur le fait que dans un certain nombre de pays, la raison humanitaire pèse bien peu par rapport à la vieille raison d'État. Tu as cité des exemples. Mais je crois aussi que dans le droit d'ingérence, on peut observer, si on regarde assez finement, des cycles. C'est-à-dire, il y a des cycles, même à partir du moment où il s'impose plus ou moins dans les années 70 et 80, il s'impose plus ou moins dans l'espace public international. Quand ça se passe mal, c'est-à-dire la Somalie, il y a ensuite un reflux, on ne veut plus intervenir. Les États-Unis ne veulent plus intervenir parce qu'il y a eu des soldats américains qui se sont fait descendre dans des conditions tragiques et que leur intervention a provoqué plus de désordre que de solutions de problèmes. Mais quand il y a le Rwanda, 94, le retard à l'intervention et l'intervention complètement décalée, et alors qu'il y a 600 000 morts au moins, va amener dans les années qui suivent à une sorte de permanente culpabilité collective, et notamment Kofi Annan, lui-même, qui était secrétaire général de l'ONU à ce moment-là, et permanente culpabilité, et donc à ce moment-là, il va falloir réintervenir, on ne peut pas laisser refaire la même chose ailleurs. Donc je crois qu'il y a des cycles assez courts qui s'ajoutent sur cette périodisation longue. Et puis sur le droit d'ingérence, dernière toute petite remarque, pour répondre à votre question, madame, pourquoi à ce moment-là, c'est toujours difficile de donner des raisons comme ça, faut pas être trop schématique. J'ajouterais à ce qu'a dit Mariella, donc plutôt dans les années 70, déjà ça commence à s'amorcer, c'est-à-dire dans un moment et avec les acteurs tels qu'elle les a caractérisés, qui est un moment de désillusion de l'idéologie révolutionnaire et communiste. Et c'est extrêmement important dans ces mouvements. C'est-à-dire que ce qui, à un moment donné, a été... beaucoup le racontent, beaucoup le disent dans les organisations humanitaires, en tout cas, dans un numéro assez extraordinaire, le premier numéro d'une revue de Médecins du Monde, qui s'appelle « Le désir d'humanitaire ». Pourquoi il y a ce désir d'humanitaire? Eh bien, il l'explique en disant « Nous en avons fini avec les idéologies, non pas au sens de la fin de l'histoire, mais c'est donc avant la chute du mur de Berlin. C'est au moment où il y a ce grand reflux dans les pays occidentaux de l'idéologie communiste et où les partis se désengagent. Enfin, c'est après Prague, par exemple, etc. Et donc c'est un moment où l'humanitaire, c'est-à-dire sauver des vies, au fond, au bout du compte, ces gens qui ont été des gauchistes dans les années, à la fin des années 60, je parle là pour les organisations humanitaires, se disent, au fond, finalement, c'est pas la révolution, c'est pas la lutte des classes. Ce qui peut encore marcher, c'est de sauver des vies.
Je vais donner la dernière parole à Serge Marcoux et ensuite à Gilles Bibeau, et ensuite on va passer au vin et fromage.
J'aimerais simplement compléter peut-être cette présentation du droit d'ingérence en rappelant le contexte international de la chose. Comme Mme Pandolfi et M. Fassin l'ont bien dit, c'est né dans les années 68, enfin les 68 arts, etc., mais ça a été promu sur la scène internationale en grande partie par Bernard Kouchner, qui, à ma connaissance, n'était pas encore ministre. Au moment où sont arrivés les événements de Sarajevo. Or,
comme je l'ai dit tout à l'heure, notre grand programme à Sarajevo était la médecine. Et grâce à Care Canada, le soin aux victimes de la guerre. Alors, Lloyd Axworthy, qui était à ce moment-là notre ministre, est venu 6 fois à Sarajevo. On lui a fait visiter nos projets et dans sa tête a germé l'idée de 2 traités internationaux. L'un, tous deux, réalisant que les civils étaient les premières victimes des guerres de nos jours. La première était le traité sur les mines antipersonnelles et le deuxième, justement, un traité international sur le droit d'ingérence. Comme on savait très bien qu'il ne serait pas possible de mener 2 traités internationaux de front, on a commencé avec le traité sur les mines antipersonnelles qui a été un remarquable succès parce que pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, un traité a été proposé aux États, a été ratifié par les parlements nationaux et a été promulgué par les Nations Unies en moins d'une année. C'est à ce moment-là que Lloyd Axworthy, en fait, a commencé à promouvoir aussi l'idée d'un traité international, entre autres par la création de ce qui s'est appelé la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États, qui a présenté son rapport en décembre 2001. Devant les hésitations d'un certain nombre de pays, le principe toutefois a été adopté par le rapport du groupe de personnalités à haut niveau sur les menaces, les défis et le changement qui a été présenté en fait au secrétaire général des Nations Unies en décembre 2004. Ce document a été accepté au sommet mondial des Nations Unies en septembre 2005, puis par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 1674 de l'automne 2006. Comme vous voyez, j'étais préparé à cette question. Toutefois, alors que dans le vocabulaire de M. Axworthy, on parlait au départ de la responsabilité de protéger, on est passé par la suite au droit d'ingérence pour en arriver au devoir d'intervenir. À ce moment-là, évidemment, la plupart des pays du Sud ont pris peur, d'autant plus qu'on constatait l'incapacité d'intervenir efficacement au Darfour et en République démocratique du Congo, alors que les opérations en Irak dérivaient manifestement. C'est pour ça que lorsqu'est venu le moment de se réunir, de faire un grand colloque international sur comment est-ce qu'on mettrait ce traité en pratique, l'idée est morte et je pense qu'elle ne sera plus jamais ressuscitée. C'est dommage parce que en l'an 2000, M. Brahimi, qui avait fait un grand rapport sur les opérations de paix des Nations Unies, avait proposé en fait de changer le concept et lui, il parlait en fait du droit à la protection. Et ça, c'était bien important parce que ça mettait l'accent en fait sur les populations locales plutôt que sur le droit des États forts d'intervenir dans des États faibles, ce que suggérait le devoir d'intervenir. Mais comme je dis, l'idée n'a plus été ressuscitée aux Nations Unies et je doute fort qu'on voit jamais l'application de ce qui n'est pas encore un traité international, ce qui ne l'a jamais été.
Gilles, le dernier mot, dans 1 minute.
1 minute.
30 secondes.
Pourquoi 30 secondes? Tu as peur que je réponde à ce que tu m'as dit, Mariella? Est-ce que l'histoire se découpe ou pas? Faut-il la penser en continuité, discontinuité? J'en sais rien. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que notre âge relève d'une exceptionnalité? Est-ce que nous sommes vraiment dans des temps nouveaux? Si nous regardons les événements dans les différents pays du monde, la place de la violence, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cependant, ceci étant dit, la légitimation pour intervenir n'est pas la même qu'à l'époque où les Belges rentraient au Congo. Lorsque les troupes des Nations Unies se retrouvent là-bas, dans la région de Bounia, ils y vont avec un autre mandat. Et ça ne va pas contre la souveraineté de l'État. Et s'il y a quelque chose de tout à fait nouveau, je dirais, c'est l'inflation de l'éthique et du juridique qui doit, en quelque sorte, être pensée dans ses effets. Son rapport au politique est peut-être assez clair, mais je trouve que ce thème du bien absolu, de la bonne gouvernance, du tout positif, on va régler les problèmes, cette paix perpétuelle de Kant, que nous savons, Hegel est venu après pour nous dire « n'y pensons pas ». Donc, il faut un réalisme politique extrêmement fort. Et si nous continuons à avoir une inflation aussi forte, je dirais, de l'éthique dans une mauvaise articulation aux politiques et aux sociales, il pourrait y avoir des effets pervers extrêmement graves. Et un de ces effets que je trouve dans le monde occidental, c'est nos belles certitudes et notre mission, qui, elle, est encore très coloniale, où nous sommes convaincus que nous devons exporter nos manières de faire, nos partis politiques, nos toutes sortes de choses, ces modèles-là. Je crois qu'il faut en être bien conscient, c'est un effet pervers. Et il y en a un deuxième, c'est comment c'est reçu par les populations locales. Et il faudrait réfléchir aussi à la réponse qu'il y a, qui est donnée de manière symétrique à ce sentiment de certitude et d'être dans la vérité. C'est ça, je pense, qui a sérieusement changé, que nous devons interroger avec beaucoup, beaucoup d'attention. Absolument, le livre s'interroge. Le livre s'interroge sur ces questions-là. Absolument, je pense l'avoir dit, M. Mariella.
Merci Gilles Bibeau, merci M. l'ambassadeur Serge Marcoux, merci Chora Baccarini, merci Didier Fassin et merci Mariella Pandolf. Et merci surtout à vous, donc pour vous remercier, prenez un verre de vin avec nous.